C'est la main verte d'Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Alain Baraton, jardinier de Versailles. Une remarque, il n'y a pas que les humains qui sont capables de tuer pour le plaisir.
Eh oui, oui, certaines plantes, elles aussi, sont capables du pire, sans aucune raison apparente. On sait, quand un végétal produit une feuille ou un fruit toxique, c'est souvent pour tenir à distance les herbivores ou toute bestiole sans intérêt pour la pollinisation. Avec le dompte venin, il n'en est rien, cette plante tue les insectes sans raison apparente.
Le dompte venin, c'est quoi cette plante? Et d'ailleurs, pourquoi ce nom?
Alors, le dompte venin est une assez jolie plante grimpante qui se plaît dans les forêts humides. Elle fleurit blanc crème et est très présente en Europe et en Amérique du Nord, où elle est même considérée comme envahissante. Elle est ainsi appelée car autrefois, elle était très employée dans les remèdes supposés guérir les empoisonnements.
Et cette plante serait donc dangereuse pour les insectes.
Et en particulier les papillons. À peine tentent-ils d'atteindre avec leur trompe le précieux nectar au cœur de la fleur qu'ils sont pris au piège, emprisonnés, un peu à la manière de certaines plantes carnivores, mais ces dernières consomment les cadavres. Pas notre dompte venin. Il tue, c'est-à-dire qu'il comme un spasme qui bloque l'insecte, il le laisse tomber ensuite au sol.
Sans et il le digère.
Il la laisse tomber. Et on n'a toujours pas compris pourquoi il tuait. Et c'est un drame parce que le dompte venin va tuer quantité de papillons, comme le monarque, vous savez, ce papillon magnifique, qui se laisse avoir souvent par cette plante. Il arrive le malheureux, il croit bien faire, et il meurt comme ça, bêtement. Non, la vie est parfois cruelle, même dans le domaine végétal.
Et vos conseils à présent aux auditrices et auditeurs de France Inter. On commence avec Max. Les jeunes pousses de Fautignac sont de couleur rouge, dit-il, ce qui fait d'ailleurs le charme de cet arbuste. Et puis, les pousses verdissent petit à petit. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ce phénomène?
Bon, la coloration des végétaux est très, très complexe. Alors, autant on sait pourquoi les feuilles prennent des teintes colorées à l'automne, c'est tout simplement que privée de sève, la plante ayant produit un bouchon de liège au niveau du pétiole pour empêcher la sève de continuer à circuler, la feuille, prioritairement en l'absence de sève, va consommer la chlorophylle, elle s'estompe et les autres pigments apparaissent, le rouge, l'orange ou le jaune. Là, on a affaire à une coloration qui est liée au caractère tout simplement du végétal. Pourquoi la carotte est orange? Parce qu'elle produit un pigment orangé. Pourquoi le Fautignac produit-il des feuilles rouges au printemps? C'est tout simplement la structure interne des feuilles qui, avant de devenir vert cuivre, prend des teintes colorées, comme le hêtre pourpre, comme dans d'autres végétaux. Donc c'est très complexe à étudier, mais ça n'a aucune relation avec la privation de sève, contrairement aux feuilles donc qui, elles, se teintent à l'automne.
Il est normal que le Fautignac passe du rouge au vert. Et tout est normal.
Oui, rien à voir avec la timidité. Voilà. Non, il rougit en voyant le jardinier
approcher. C'est tellement charmant.
C'est vrai que c'est joli.
Les personnes qui rougissent.
Oui, mais c'est vrai.
Délicieux.
Question d'Elisa. Nous avons un verger avec notamment deux mirabelliers. Les mirabelles avaient bien démarré, dit Elisa. Mais les feuilles se sont racornies. Les mirabelles se sont atrophiées. Que se passe-t-il, docteur?
C'est beaucoup moins charmant. Alors, on parle de moniliose. La moniliose, c'est une maladie cryptogamique qui est favorisée par les printemps doux et humides, mais également par les chocs, les coupes faites sans aucune protection, les tailles d'arbre en arbre sans avoir pris le soin de désinfecter l'outil comme le sécateur. Il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, on va vous dire certainement, parfois, que certaines pulvérisations de quelques purins d'ortie ou ce genre de choses va tenir à distance ou éloigner la contamination. J'en suis vraiment moins convaincu. Ce que je sais, c'est que quand un végétal et quand un mirabellier est atteint de moniliose 1, on coupe les parties atteintes, c'est sûr. 2, on évacue du verger la présence de toute partie végétale contaminée. 3, on ne met pas sur le tas d'ordures. C'est la seule méthode que je connais pour justement limiter la propagation de ce redoutable virus.
Un champignon, non pas virus. Question de Pierre qui est furieux, Pierre. Sans me prévenir, des voisins ont taillé un vieux rosier qui m'appartient, mais qui effectivement dépasse dans la rue. Depuis, il ne fait plus de roses, mais seulement des boutons, et encore, dit-il. Alors, que puis-je faire pour que ce rosier retrouve de sa vigueur?
On ne parlera pas de taloche pour le voisin, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas.
Évidemment, vous n'avez pas de voisin, vous. Mais c'est vrai que souvent, les voisins sont des pestes.
Mais je déteste avoir des voisins. L'idée d'avoir... Donc, je plaisante, bien sûr. Non, on ne touche pas aux plantes du voisin, déjà, même s'il est sur le trottoir. Hein, et on se rappelle qu'il faut arrêter de tout tailler n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'un rosier aime bien, tous les ans, à l'automne ou au début du printemps, être, j'allais dire, raccourci, qu'il faut pour autant considérer considérer qu'on peut le faire de manière folle et sans aucune considération. Le rosier ne peut être taillé qu'à l'automne, comme je le disais, ou au plus tard, lorsque les gelées ne sont plus à craindre. Il y a quelques règles à respecter. Si vous prenez un vieux rosier maintenant, en juin ou en juillet, vous le coupez de moitié, comment voulez-vous que la plante soit capable de produire des fleurs? Le premier réflexe de ce rosier sera, pour lutter contre cette amputation, de produire des feuilles pour tenter au moins de réaliser la photosynthèse normalement. On ne peut pas produire des feuilles en abondance et en même temps des fleurs et des graines. Donc la plante préfère les feuilles, mais que le voisin arrête de faire tout et n'importe quoi.
Jean-Luc et son fils Amaury, ils ont des aoûtats dans leur jardin. Comment s'en débarrasser, demande-t-il?
On en plaisante beaucoup, mais je vous assure que c'est terrible.
Ça pique l'aoûta.
L'aoûta, ce sont des acariens. Pour faire ça, vous marchez dans l'herbe les pieds nus.
C'est très très douloureux.
Alors, vous avez les pieds de façon Elephant Man. Ça peut être extrêmement douloureux. Le seul petit truc qui est, lui, vérifiable, c'est que cette bestiole redoutable, je dis bien redoutable, déteste l'humidité. Pour ça qu'elle vit d'ailleurs dans les haies. Donc, elle est pas folle. Quand il pleut, elle se réfugie. Donc, avant le bain de soleil, n'hésitez pas le matin à arroser votre pelouse. Au moins, ça limitera leur présence. Deux, quand la pelouse en est infestée, quand vous tondez, n'oubliez pas de prendre le bac de ramassage d'herbe. Au moins, vous en évacuerez ainsi. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. L'occasion de rappeler qu'une pelouse n'est pas un endroit innocent. Et quand on a des tout petits bébés, par exemple, on ne les met jamais, jamais, jamais en contact avec l'herbe. Toujours sur une couverture ou un drap.
Mais même vous, je vous ai toujours vu assis dans l'herbe avec une couverture.
C'est vrai, je vous remercie toujours de vos précautions à mon endroit, de m'hydrater.
On a offert à Catherine un camélia en pot, puis-je le planter dans mon jardin, dit-elle. Un jardin dont la terre est argileuse, en surface. Elle précise que là où elle habite, les étés sont très chauds.
Pas tellement la chaleur. Les plus beaux camélias d'Europe sont au Portugal, un pays qui n'est pas connu pour avoir des hivers particulièrement redoutables. Non, par contre, ce qui est sur la Galice également, il y a des magnolias, des camélias en Galice, absolument, d'une beauté.
Les plus beaux camélias sont en Italie, oui, pas en Espagne.
Et il y en a aussi en Italie, bien entendu, je connais votre attachement pour l'Italie. Non, le problème,
pour les camélias,
c'est
surtout.
Oui, le problème, c'est le sol. La terre argileuse est une terre qui retient l'eau. Le camélia déteste, je dis bien, déteste avoir le pied dans l'eau. Dans tous les cas de figure, ce n'est certainement pas maintenant que l'on plante un camélia dans son jardin. On attendra l'automne, même s'il était en pot.
Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai déjà planté des camélias l'été, ça marche très bien.
Eh ben, oui, bien sûr, d'ouvrir un débat. Argileuse.
Je ne sais pas si la terre est...
On fait moins la malin.
Nous y voilà. Une dernière question.
On parle bien de la terre argileuse, parce qu'effectivement, vous avez raison, la plante en pot qu'on appelle en conteneur, elle se plante toute l'année sans aucun problème. Mm-hmm. Mais je rappelle que si vous plantez maintenant une plante en pot, quelle qu'elle soit, il faudra très copieusement arroser tout l'été, et pour peu que l'été soit sec, ce que j'ai d'ailleurs prévu, c'est mal commencé d'ailleurs, j'en conviens, eh bien, il faut être là en permanence.
Et une dernière question, une réponse rapide. Fanny a coupé 3 acacias en bordure de son jardin. Je suis maintenant envahi de repousses d'acacias avec de grosses épines. Quelle solution pour m'en débarrasser définitivement, demande-t-elle.
Ne rêvez pas. La binette, ou plutôt le sécateur, c'est épouvantable.
Et l'huile de coude.
Tant que les racines seront sous terre et continueront de circuler, de faire circuler la sève, il y aura des rejets. L'huile de coude, la tondeuse et le sécateur.
Un dernier conseil pour le week-end.
Je devrais pas parler de ce livre, mais il est extraordinaire. Quelle est cette plante? C'est le genre de bouquin qui me met au chômage. 870 végétaux sont identifiés grâce à 2000 dessins. C'est drôlement bien fait, c'est passionnant à lire. On y apprend tout sur les plantes.
Mais vous revenez pas demain, alors on va se servir du livre.
Mais je m'accroche, je suis boulonné au fauteuil. Il est signé Margot et Roland Spohn et les dessins sont de Marianne Koltebacht. C'est publié aux éditions...
Vous pouvez me redire le nom?
Ah oui, mais ce sont des Allemands, je ne sais pas très... Marianne Koltebacht. B-A-C-H-L-E.
Barthes.
Oui, mais il y a un T entre les deux. Enfin, écoutez, c'est... Quelle est cette plante publiée aux éditions Ulmer?
On va trouver.
Ulmer, vous trouverez.
On va trouver.
C'est passionnant. On apprend tout. Et ça coûte 24 euros. Je vous l'offre, Madame Martin.
Royal. Cadeau. Alain Baraton. C'est même pas vrai, hein, je le dis, parce que l'auditeur va penser que c'est vrai. Non. Alain Baraton n'offre jamais les bouquins.
Ni un livre, ni une fleur en 20 ans de collaboration.
On se reverra demain avec plaisir. Alain Baraton, le jardinier de Versailles.